On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok. On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est beau, ils disent ok. On dit ça c'est pas beau, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit le bonheur à la portée de tous, un gros téléviseur, un écran 24 pouces. Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous, vous pouvez devenir des stars, ouais. Vous pouvez gagner des milliards, allez. Regardez, 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 regardez. Regardez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos journaux, nos télés, ils ont tous cette envie folle, nous tutoyer, nous rassembler. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, dit notre l'épître, dit l'apôtre. C'est vrai de manière individuelle, c'est vrai de manière sociale. Et on le voit, le monde qui veut vivre selon la chair est en train de mourir. C'est encore une parole de l'Évangile, c'est encore un enseignement chrétien que l'on constate malheureusement de nos yeux. C'est plus une vérité intellectuelle, c'est une vérité pratique qu'on voit. Le monde vit selon la chair et le monde meurt. Parce que l'homme sans Dieu s'idolâtre nécessairement. Et l'homme moderne, bien sûr, s'est fait Dieu, nous le savons. Lui et la collectivité humaine. Avec les droits de l'homme, la souveraineté du peuple, tous ces mensonges diaboliques. Et tout cela ne sont que des impostures, évidemment. Et en Russie, eh bien, à l'époque du goulag que nous traitons, on avait bien sûr aussi cette idolâtrie. Le credo était identique. D'abord, Dieu n'existe pas, c'est la première chose. Et ensuite, donc, c'est l'homme qui devient Dieu. Avec le communisme qui était considéré comme le souverain bien, qui a donc pris la place de Dieu. Et ceux qui ne croyaient pas à ce nouveau Dieu, à ce Dieu créé par les hommes, eh bien, pour rester en vie dans ce monde, eh bien, devaient faire semblant d'y croire. Et c'est là toute la malice et le drame de ces situations-là. Et pour illustrer cela, une anecdote rapportée par Solzhenitsyn est très, très caractéristique de la misère humaine. Jusqu'où la misère humaine peut conduire. La lâcheté, la peur. L'hypocrisie, le mensonge, où on se rend complice du mal, où on va mépriser la vérité. C'est tout cela qui est au cœur du goulag. Alors, l'anecdote, c'est une conférence d'un annexe du Parti communiste qui se tient dans la province de Moscou, mais dans un tout petit village. Donc, vraiment, imaginez la vie politique dans un village de 200-300 habitants, ça n'a pas. Les décisions qu'ils prennent n'ont pas des importances considérables. Voilà, c'est un fait divers dans l'univers communiste de la Russie de l'époque. Voilà ce qui se passe. Donc la conférence est présidée par le nouveau secrétaire du comité, qui remplace celui qui vient d'être coffré, donc qui vient de partir au goulag, l'autre. À la fin de la conférence, on va adopter une motion de fidélité au camarade Staline. Donc on va montrer notre zèle pour le parti. Bien entendu, tout le monde se lève. De même que tout au long de la conférence, tout le monde avait bondi de son siège à chaque mention du nom de Staline. Et on est dans le ridicule. Bon, dans les apparences. Et là, des applaudissements frénétiques se transforment en ovations. Et vont éclater dans la petite salle. Pendant 3, 4, 5 minutes, ils persistent dans leur frénésie et continuent à se transformer en ovation. Donc ce n'est pas un applaudissement de chaleureux. Une ovation, c'est quelque chose de très violent et de physiquement éprouvant. Surtout quand ça dure plusieurs minutes. C'est une explosion de joie, une ovation. Pour un truc insignifiant, dans le cas précis. Mais au bout de 5 minutes, les bras s'engourdissent à force d'être levés. Mais déjà les hommes d'un certain âge s'essoufflent. Mais déjà, même ceux qui adulent sincèrement Staline commencent à trouver cela d'une insupportable stupidité. Ça fait 6 minutes qu'on est en train de beugler comme des dingues au nom de Staline. Ça n'a pas de sens. Et cependant, qui osera arrêter le mouvement? C'est le secrétaire du comité départemental qui pourrait le faire. C'est lui le chef, c'est lui qui a commencé. Il est debout à la tribune, il vient de lire la motion. Mais il est tout récent et il remplace quelqu'un qui vient d'être coffré. Lui-même a peur. Car en cette salle, parmi ceux qui sont debout et qui applaudissent, il y a des membres de la police politique. Et ils surveillent qui cessera le premier. Et dans cette petite salle perdue pour le chef, les applaudissements se prolongent pendant 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Ils sont morts. Essayez d'applaudir 8 minutes, vous allez voir ce que ça représente. Et pas petit. Allez-y, mettez le paquet, 8 minutes. Vous allez pas bien. Là, on touche du doigt la folie, l'aveuglement de l'homme. Ils sont morts. Ils sont fichus. Maintenant, ils ne peuvent plus s'arrêter. Jusqu'à ce qu'ils tombent d'une crise cardiaque. Au fond de la salle, dans la presse, on peut encore un peu tricher, frapper moins souvent, moins fort, moins furieusement. Mais à la tribune, au vu de tout le monde, le directeur de la fabrique de papier local, homme solide et indépendant, est debout à la tribune et il applaudit, tout en comprenant à quel point la situation est fausse et sans issue. Il applaudit pour la 9e minute consécutive, pour la 10e. Il regarde le secrétaire d'un air abattu. C'est de la folie collective. Se regardant les uns les autres, avec un faible espoir, mais l'enthousiasme peint sur leur visage, les dirigeants du comité applaudiront jusqu'à tomber, jusqu'à ce qu'il faille les emporter sur des civières. À la 11e minute, le directeur de la fabrique de papier prend un air affairé et s'assied à sa place. Oh miracle ! Où est passé l'indescriptible et irrésistible enthousiasme général ? Tous s'arrêtent comme un seul homme au même claquement de main et ils s'assied à leur tour. Ils sont sauvés. L'écureuil a eu l'idée de sortir de la roue. Seulement, c'est de cette façon-là, justement, que l'on repère les esprits indépendants. C'est de cette façon-là, justement, qu'on les extirpe. La nuit même, le directeur de fabrique est arrêté. Et on n'a pas de mal à lui coller 10 ans pour un autre motif. Et revenons avec notre époque de Goulag, où le masque va être justement un instrument de gouvernement social, où on va voir les esprits indépendants. Et quand ils le jugeront utile, ils pourront les extirper. Ils pourront aussi les supporter. C'est une question de stratégie, de politique, de décision. Le mensonge allait parfois en reniement, on l'avait déjà évoqué, je sous-signais, à partir de tel jour, renie mon père et ma mère en tant qu'ennemis du peuple soviétique. Donc il y avait des actes qui étaient écrits hein, de cette manière-là. Chose très intéressante aussi, et toujours actuelle, les bandits, les truands étaient préférés plutôt que les ennemis politiques. Parce que eux, au moins, eh bien, on disait qu'ils ne luttaient pas contre le pouvoir soviétique. Ils n'étaient pas les ennemis du pouvoir du peuple. Donc c'était moins grave d'être un truand que d'être un ennemi politique en Russie communiste. Et aujourd'hui, on a pareil avec la racaille. Quand la racaille tue, vole, on y trouve toujours des circonstances atténuantes. Par contre, si c'est un ennemi politique, pour son nationalisme, pour sa religion, pour le catholicisme, etc., là, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Et il explique ce phénomène de cette manière-là. Voici comment on argumente la chose. Les criminels professionnels ne peuvent en aucun cas être mis sur le même pied que les éléments capitalistes. Alors il faut traduire, capitaliste à l'époque ça veut dire tout le monde opposé au pouvoir soviétique, les ingénieurs, les étudiants, les agronomes, les religieuses, etc. Les seconds, donc les bandits, ne sont hostiles, les éléments capitalistes, sont hostiles de façon stable à la dictature du prolétariat, tandis que les premiers, les bandits, ne sont que instables politiquement. Et c'est maintenant la raison pour laquelle, eh bien, selon la terminologie officielle du Goulag, ils sont dits socialement proches du peuple. Les voleurs ne sont pas encore perdus pour le régime. Ce sont des enfants prodigues, mais des enfants tout de même. Tandis que les fascistes, c'est comme ça qu'on les appelait, les opposants au régime soviétique, c'était des fascistes, eh bien oui, ceux-là n'ont pas leur place sur Terre. Ainsi, le système punitif se transforme en un système d'encouragement aux truands. Et ceux-ci ont-ils proliféré pendant des dizaines d'années comme une moisissure luxuriante dans tout le pays, dans les prisons et dans les camps. C'est exactement ce que nous revivons. Ça prolifère. Parce qu'en fait, on s'attaque à ceux qui sont attachés à l'ordre naturel et surnaturel. Ceux qui sont attachés à l'ordre naturel et surnaturel, ce sont des contre-révolutionnaires. Et ceux-là sont des fascistes. Et les fascistes ne doivent pas vivre. Vous ne le saviez pas, mais vous êtes des fascistes. Et ce n'est pas à vous de décider qui vous êtes. C'est le pouvoir qui décide pour vous. Vous êtes contre la révolution, vous êtes des fascistes. Et vous n'avez pas votre place sur Terre. Vous êtes de la vermine. et on vous écrasera. Voilà. La magistrature, la police, etc. Remarquez-le bien, c'est exactement le langage, plus ou moins clair, des médias de la République. Les truands, les migrants, les clandestins, les émigrés, les antifas, les gauchistes, les sodomites, eux, ils ont carte blanche, quasiment. En tout cas, ils ont des circonstances atténuantes. Ils restent proches du peuple. Ils peuvent, eux, exprimer leur violence. On les comprend. Hein, l'émotion est au-dessus des lois. On a entendu ça il n'y a pas longtemps. L'émotion est au-dessus des lois. Pourquoi? Parce que c'était des antifas, des gauchistes, des émigrés. C'est des enfants prodigues. Mais si un blanc, en plus un catholique, en plus patriote, a le malheur de défendre sa simple vie ou ses biens, son honneur, ah ben là, les médias, police, justice lui tombent dessus. C'est un fasciste. C'est un fasciste qui a exprimé sa haine. Et là, il n'y a plus d'émotion au-dessus des lois. Il y a la loi dans toute sa rigueur. Devant tant d'injustices et de folies, eh bien, la masse des victimes du goulag, qu'elle faisait-elle? Que faisait la masse des victimes du goulag? Eh bien, elle se taisait. Pas faire de bruit. Il y aura des nuances qu'on apportera plus tard, mais globalement, longtemps, elle s'est tue. Pas faire de bruit. Tout va s'arranger tout seul, croyait-il. Solzhenitsyn cite le raisonnement de ces gens-là, le discours de ces victimes du goulag. Ça ne fait rien, nous sommes encore jeunes, nous aurons encore le temps de vivre. L'essentiel maintenant est de ne pas faire de faux pas maintenant. Lorsque nous arriverons au camp, pas un mot à personne pour qu'on ne nous fasse pas une deuxième peine. Nous travaillerons honnêtement, nous nous tairons, oui nous nous tairons. Ah, ils y croyaient tant à ce programme, il était si plein d'espoir, ce petit grain de sable innocent happé dans les meules, par les meules staliniennes. On avait envie de lui donner raison, de purger bien douillettement sa peine, pour rayer ensuite de sa mémoire tout ce qu'on aurait vécu. Mais je commençais, dit Solzhenitsyn, à sentir ceci en moi. Si pour vivre, il ne faut pas vivre, à quoi bon? Et ça, on va le voir, c'est la question principale du goulag. La vie, oui, mais à quel prix? À quel prix la vie? Jusqu'où il faut faire des choses pour vivre? Est-ce qu'il faut mentir toute sa vie pour vivre sur cette terre? C'était ça l'enjeu du goulag. C'est quoi une vie au prix du mensonge constant et habituel? On voit bien, on a tous, ici nous avons une conscience, et lorsque nous avons fait une action mal, eh bien, elle nous insupporte. Il y a un poids. Et tout le monde a une conscience. Tout le monde. Plus ou moins éteinte, mais elle est là. Des exemples pour montrer, là encore, jusqu'où peut aller la folie humaine. Un groupe de matelots russes avait, pendant la guerre, avait été prisonnier, avait passé la guerre en Suède. Après la guerre, la Suède donc rend ses matelots russes à la Russie. Une fois rentrés chez eux, ils sont tous arrêtés, coffrés au goulag pour propagande anti-soviétique et pour des récits alléchants sur la vie capitaliste. Parce qu'ils ont vécu, ils ont vu la différence. Donc ils savent que le parti sait que c'est un danger. Coffrés. Au camp, ils ne parlaient plus de la Suède, de peur de recevoir une seconde peine. Donc ils arrêtaient de dire ce qu'ils avaient vu. Mais en Suède, on va réussir à connaître un petit peu ce qui leur est advenu. Alors ces gars furent rassemblés et pendant 2 mois environ, on va les engraisser. On va attendre que leurs cheveux repoussent et puis on va les habiller d'une sobre élégance et puis on va procéder à une répétition de ce que chacun devra dire en les prévenant que tout salaud qui ne dira autre chose que ce qui a été prévu eh bien recevra 9 grammes dans la nuque. Donc il sera exécuté. Et on va ainsi les exhiber dans une conférence de presse où tous les journalistes étrangers étaient invités pour la circonstance. Et même des gens qui avaient connu ces matelots en Suède. Les anciens internés, eh bien, furent pleins d'entrain. Ils ont raconté là où ils vivaient, là où ils étudiaient, là où ils travaillaient, en s'indignant des calomnies bourgeoises qu'on avait pu lire ici en Russie, dans les journaux occidentaux. Ils s'étaient écrits les uns les autres, et ils s'étaient retrouvés à Leningrad, mais la question des frais du voyage ne fut pas posée. Voilà comment on justifie la chose. Et remarquez bien ça, si cette remarque est très gênante, qui finance? On n'a pas le temps, parce qu'on ne peut pas tout surveiller, on a autre chose, on doit vivre, nous aussi. Mais c'est la question première qu'il faut se poser dans un mouvement, dans un phénomène, dans une personne. Qui l'a financé? Alors ça demande parfois des mois de travail, donc on ne peut pas le faire, mais on aurait beaucoup d'explications rien que par là. Qui a financé ce mouvement? Qui a financé cette action? Si cette question-là, aurait pu voir qu'il y avait une supercherie derrière, que ce n'est pas ces petits matelots qui ont pu se réunir comme ça, c'est pas vrai. Alors, leur visage, frais et luisant, eh bien, ils étaient le meilleur démenti de l'information occidentale. Mais bien sûr, après l'entretien, la conférence, on leur a coupé les cheveux et on les a renvoyés au camp, d'où ils étaient venus. Comme ils étaient bien conduits, eh bien, aucun d'eux n'a eu une seconde peine. Ces gens ont joué du théâtre sur leur propre vie. C'est ça qui... Mais aujourd'hui, le théâtre, il est quotidien. L'imposture est quotidienne. Elle est en direct. Vous regardez une émission de télévision, soi-disant un reportage, soi-disant les infos de 20h, mais peu importe la chaîne, c'est du théâtre. Et ça aussi, il va le montrer encore. Le mensonge règne à tous les niveaux. Même chez ces victimes qui ont raconté, qui ont une belle vie, alors qu'ils sortaient du goulag, juste pour faire la pièce de théâtre. C'est une cruauté extraordinaire. Je ne les juge pas, hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fera. Hein. Bien sûr qu'on peut juger l'action, elle est malheureuse, l'action. Mais eux, c'est leur problème. Vous comprenez que quand tout un peuple vit ainsi dans le mensonge, parce qu'il a peur de perdre la vie, parce qu'il veut vivre à ce prix-là, eh bien la vie de ce peuple devient nécessairement un enfer. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, dit la parole de Dieu. Vous mourrez, socialement. Il y a un exemple. Théno avait honte, Théno avait honte quand il racontait en prison comment, 2 semaines avant son arrestation, il avait fait aux marins une conférence intitulée « La constitution stalinienne est la plus démocratique du monde ». Donc deux semaines plus tard, il va la goûter, la démocratie, au goulag. Bien sûr, cette conférence qu'il avait faite ne comportait aucun mot sincère. Nul n'a publié, ne fût-ce qu'une page sans avoir menti, une page officielle. Nul ne s'est approché du micro à cette époque sans avoir menti. Et si seulement l'on pouvait s'en tenir à cela, mais il y a plus, toute conversation, aujourd'hui encore, le mensonge, mais ces hommes qui vous disent que la pandémie a redémarré, que c'est gravissime, mais ils savent très bien que plus on teste des gens pour retrouver la grippe, plus on va trouver de gens qui ont eu la grippe, mais sans symptômes. On fait exactement la même chose avec ce Covid. On teste, d'abord les tests ne sont pas fiables, ils sont faits pour matcher à n'importe quelle bactérie ou quel autre truc. Donc, un président africain a même fait un test il y a quelques mois sur de l'ananas, je crois. Il a trouvé du Covid-19 dans l'ananas. Allez, faites-vous tester. Le mensonge qui domine. Il y a plus. Toute conversation avec les supérieurs, toute conversation au bureau du personnel, toute conversation en général avec un autre soviétique implique le mensonge. Et est-ce que nous, entre Français, on se ment pas parce que là, on sait qu'il y a un danger, là, dans notre profession? Je parlais avec une infirmière qui me disait des choses, je lui ai dit, mais dites ce que vous savez. Ah oui, mais si je fais ça, je perds ma place. Mais on est en plein goulag. C'est pas les barbelés qui font le goulag. C'est le mensonge. C'est l'idolâtrie. Tantôt ce mensonge sera fracassant, tantôt circonspect, tantôt relevant d'une approbation condescendante. On glisse. Ça arrive très, très vite. C'est pas facile de réagir, surtout quand il y a un danger, on ne sait pas toujours, on n'a pas la propos. Et si entre quatre yeux, un imbécile t'affirme que nous avons repassé la Volga, donc ils ont fait reculer, pour attirer Hitler plus profondément de nos terres, il faut acquiescer immanquablement. Il le faut, car si tu hoches la tête, au lieu d'opiner du bonnet, tu risques de retrouver dans l'archipel du goulag. En fait, l'armée allemande a été vainqueur pendant un an et demi, et ils étaient en déroute complète. Mais alors, la propagande disait que ce n'était pas une déroute, c'était une stratégie pour l'attirer dans un piège. Et tout le monde savait que c'était faux. Oui, mais il ne fallait pas que tu manifestes que tu savais que c'était faux. Danger. Mais ce n'est pas encore tout. C'est qu'ils poussent tes enfants. Et s'ils sont déjà assez grands, Vous ne devez pas, ta femme et toi, dire ouvertement en leur présence ce que vous pensez. N'oubliez pas qu'on veut faire d'eux des Pavlik Morozov, donc un petit enfant qui a dénoncé ses parents, qui ont fini au goulag, donc c'était un héros de la Russie soviétique. Ils n'hésiteront pas à refaire son geste héroïque. Si par contre vos enfants sont encore petits, il vous faut choisir le moyen le plus sûr de les élever. Il faut leur présenter d'emblée le mensonge comme la vérité pour leur faciliter la vie. C'était ça le drame de l'époque. Leur présenter le mensonge comme la vérité. Et ainsi, socialement, eh bien, ça va bien se passer, puisqu'ils y croient, et donc ils vont marcher dans la combine. Oui, mais c'est ça la vie, c'est à ce prix-là. Et dès lors, il ne faut plus cesser de leur mentir, de mentir en leur présence. Ou bien de leur dire la vérité, mais tout en craignant qu'ils trébuchent et qu'ils vous trahissent. Et parce que on leur va leur dire la vérité entre quatre murs, il n'y a pas la pression. Il n'y a pas la souffrance. Mais s'ils se retrouvent, s'ils ont peur, eux aussi à leur tour, et s'ils disent, ben non, à la maison, il se passe ça, ah ben c'est fini. Donc il y a un risque de dire la vérité à ses enfants à cette époque-là. Et ce risque, il n'existe plus aujourd'hui. Ah, pas au même degré. Il convient alors si on leur dit la vérité, il convient alors de leur faire aussitôt comprendre que la vérité tue. La vérité peut tuer. Et que sitôt franchi le seuil de la maison, il faut mentir. Mentir sans trêve, comme le font papa et maman. Ah non, il ne faut pas mentir. Mais il faut être habile. La vérité tue. Aujourd'hui, si on dit la vérité sur des mensonges de propagande d'État, eh bien vous pouvez devenir un délinquant. Vous faites un délit. Vous pouvez avoir mal à la prison, peut-être. Des gens sont aujourd'hui en prison parce que ils pensent pas ce que l'État a décidé qu'il fallait penser sur la Shoah, par exemple. Et si jamais les enfants parlent librement de ce qu'ils ont appris à la maison, ils peuvent avoir les parents peuvent avoir des soucis aujourd'hui. Oui, c'est possible. Ou un autre sujet, aux États-Unis, eh bien un homme qui a dit la vérité sur les homosexuels à ses enfants, eh bien a eu des soucis. Il est en prison. En Angleterre, au nom du racisme, un enfant a répété ce que les parents apprenaient justement sur ce sujet-là, et eh bien, en Angleterre, ils ont eu des soucis. On est en plein goulag. Le goulag n'a pas cessé. Il va empirer. Il va se modifier extérieurement. Mais on ne le quittera pas, puisqu'on n'a pas quitté le mensonge et l'idolâtrie qui sont créatrices de goulag. Solzhenitsyn, et je conclue, chaque acte de résistance exigeait un courage sans commune mesure avec l'importance de cet acte. C'est ça le drame de la tyrannie, c'est que pour le moindre acte social, il y a un moment, c'est normalement la vie sociale, je ne dois pas être un héros toutes les secondes, tous les jours. C'est pas même à la guerre, on n'est pas un héros tout. C'est des circonstances très particulières où on a toutes ces énergies et là on fait un acte héroïque. Ben, pas en Russie soviétique, non. C'est dans la vie de tous les jours, l'acte héroïque est exigé. C'est un peu ça pour la vie de la foi aujourd'hui. Être un chrétien, être un père de famille aujourd'hui, être un enfant catholique, un étudiant honnête, ben, ça demande un petit peu d'héroïsme quand même. Il était moins dangereux sous Alexandre II, le tsar, de garder chez soi de la dynamite que d'héberger sous Staline un orphelin d'un ennemi du peuple. Les actes de courage existaient pourtant. Oui, il n'y a pas eu que des gens qui se sont couchés et qui ont menti toute leur vie. Il cite ce bel exemple et on conclura. Une jeune femme, employée à la censure militaire en 1941 à Ryazan, un jour déchira une lettre compromettante pour un soldat. Souvenez-vous, c'est comme ça que Solzhenitsyn a été dénoncé. On lisait la correspondance, on classait à surveiller, à arrêter. Donc elle voit, cette jeune femme voit une lettre. Non, si je mets ça de côté, le pauvre, il est arrêté. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le déchire. Un homme du front qu'elle ne connaissait pas, mais quelqu'un l'a vu jeter des morceaux dans la poubelle. Alors, on a été chercher, on a reconstitué la lettre qui avait été déchirée, et on a coffré la jeune fille. Parce que son acte est encore plus grave que cette simple lettre. Celle-là n'avait pas fait, avait trahi le parti, l'idéologie. Elle fut coffrée. Cette femme s'est sacrifiée pour un inconnu. Et comme quoi l'héroïsme, le courage, c'est pas qu'à la guerre, loin de là. Et on manque du courage et de l'héroïsme civique. Parce qu'en fait, il est de tous les instants, d'une certaine manière, il est donc encore plus dur, enfin, il a une autre difficulté que celui de la guerre. Mais la difficulté la même, c'est que la mort sociale, la mort physique, c'est la mort. Et on ne veut pas mourir. On n'est pas fait pour mourir. Comprenez pourquoi le Christ a voulu mourir sur une croix, trahi et hué par les hommes. On avait besoin de cet exemple. Et même avec cet exemple, ce n'est pas facile. Elle s'était sacrifiée pour un inconnu. Et si je l'ai su, c'est que j'habitais moi-même radiant à l'époque. Et que de cas semblables sont ignorés. Et Dieu jugera, et Dieu merci, la nature humaine aussi est capable de ces héroïsmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
On leur dit « eux gentils », ils disent « ok ». On leur dit « eux méchants », ils disent « ok ». Qu'est-ce qu'ils sont cons ? On leur dit « c'est la guerre », ils disent « ok ». On leur dit « faut la faire », ils disent « ok ». Qu'est-ce qu'ils sont cons ? On dit l'ennemi se cache n'importe où, surveillez vos amis, restez planqués chez vous, nos démocraties sont en danger partout, on leur dit insécurité. On dit état policier, allez, paniquez, 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 paniquez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous couvrent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Au service de nos portefeuilles, sous les prétextes les plus grossiers, ils se font démonter la gueule partout, ils restent à piller. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Puis on dit l'air et l'eau deviennent des denrées rares, qu'on achète en tonneaux, payant pétrodollars. Faites de plus en plus chaud, faites de plus en plus noir, pendant qu'on gaspille ce qu'il reste. Tâchez de vivre un peu modeste pour réparer, 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 réparer. Réparer. Nous on a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça tant qu'on les culpabilise et que l'on sait les surveiller, qu'on les distraite, qu'on les divise, aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ok. 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 Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, respirez plus.